sommes si peu revus après notre première rencontre. Pourtant, nous avions fait promesse d'amitié. Mais le temps coule et il en est ainsi pour beaucoup d'autres. Je pense très souvent à Mario Soares. Notre entretien, c'était en 1967.
Mario Soares, permettez-moi de présenter votre nom à la française. Vous dites comment, vous ?
Mario Soares.
Alors, Mario Soares, on comprendra mieux si je le dis comme je le dis.
Oui, bien sûr.
Il y aura bientôt 2 ans, quelques capitaines révoltés vous ont ouvert plutôt les portes de votre pays, le Portugal. Vous avez été appelé par la Révolution, vous avez quitté la France, qui vous tenait en exil. Avec les socialistes qui avaient résisté à ce qu'on a appelé le fascisme, vous avez alors mobilisé le peuple contre les dangers d'un nouveau totalitarisme pour sauvegarder la démocratie. Aujourd'hui, Mario Soares, vous voulez persuader le monde que le socialisme à visage humain n'est pas un rêve inaccessible. Mais pourquoi ajouter encore visage humain à socialisme ? Est-ce pour rassurer ?
Pas pour rassurer précisément, mais pour préciser notre pensée, parce que, comme vous le savez, le mot socialisme a été utilisé pour tout le monde. Les pays communistes disent socialistes et on parle partout de socialisme. Il y a différentes espèces de socialisme. Alors, je dis à visage humain pour préciser notre lignée de pensée.
Vous ne pensez pas que c'est un peu démagogique de dire socialisme à visage humain ?
Non, pas démagogique, pléonastique, si vous voulez.
C'est
parce que pour ma conception de socialisme, ça veut dire un socialisme humain.
Vous voulez tout de suite vous démarquer des communistes ?
Oui, je vais me démarquer du communiste et j'ai besoin de cela au Portugal. Parce que les communistes ne font pas bonne recette au Portugal. Vous savez, la situation c'est très différente dans mon pays que dans le vôtre. Et si vous voulez, en termes de comparaison, il faut aller dans les démocraties populaires pour comprendre ces phénomènes de rejet du peuple portugais vis-à-vis des thèses défendues par les communistes portugais, qui sont très différentes, je précise, des communistes français ou italiens ou espagnols.
Vous avez une vraie franchise. Vous dites, vous, je ne pourrai jamais gouverner avec les communistes. En France, les socialistes sont plus discrets dans cette analyse.
Vous savez, je ne dis jamais. Le mot jamais, c'est de trop, là. Je dis que pour le moment, je ne peux pas gouverner avec les communistes, tandis que les communistes ne se sont ouverts à la démocratie, aux pratiques d'une vie politique démocratique. C'est différent. Je ne m'engage pour l'avenir. Bien sûr, quand je suis arrivé au Portugal en 1974, j'avais l'idée de faire un front commun avec les communistes et j'ai proposé quelque chose de semblable au programme commun de la gauche en France. C'était mon cadre et mon aspiration. Ici, on pourrait travailler avec les communistes. Je peux vous dire que la révolution portugaise était beaucoup plus avancée qu'elle est maintenant. Et nous étions les deux, les socialistes et les communistes, carrément au pouvoir maintenant et depuis cette date. C'est justement grâce aux aspirations, à la domination des communistes qui ont empêché cette voie. Et je le regrette. Alors pour le moment, ça a laissé beaucoup de traumatismes dans la psychologie des Portugais et partout, dans tous les milieux, et surtout dans les milieux des travailleurs et de la classe ouvrière. Et c'est pour cela que je ne peux pas me permettre d'insister dans cette formule qui me ferait perdre 50% des votes socialistes.
Alors là, j'ai devant moi un livre qui paraît chez Calman Levy, « Portugal, quelle révolution ?» C'est une suite d'entretiens avec notre confrère Dominique Pouchin. Et je dois dire que les questions sont brutales, que vous y répondez franchement et qu'on ne vous ménage pas. Vous avez aimé cette manière de parler ? Vous l'avez suggéré ou bien elle vous a été imposée ?
Ah non, je n'ai pas suggéré. Vous savez, il y a même Monsieur Dominique Pouchin, c'est un journaliste bien connu au Portugal, parce qu'il a suivi la révolution depuis le début, même avant la révolution, il était là depuis au Portugal depuis le 16 mars. Je pense, de 1974. Et je l'ai connu justement quand le monde m'a envoyé, M. Dominique Pouchin, ici, chez moi, quand j'ai habité à Paris, pour lui donner quelques adresses pour qu'il puisse prendre contact là-bas avec l'opposition. Il y avait déjà l'idée que quelque chose allait se passer au Portugal. Après, il a suivi les affaires portugaises depuis le début et il a écrit pour le monde. Il part d'une façon toujours sympathique pour le Parti socialiste.
Et pour vous ?
Et pas pour moi personnellement, mais il n'a pas été spécialement sympathique non plus pour moi, ni pour mon parti surtout. Mais
Faut-il être tendre avec un homme politique ?
Ah, peut-être pas.
Nous n'avons pas faire de concessions, nous les journalistes.
Oui, vous ne devez pas faire. Mais disons qu'il y a dans tous les journalistes une optique. Et il y a des optiques qui sont plus sympathisantes avec la mienne que la de Dominique Pouchin. Alors, peut-être pour lui, je suis un social-démocrate, un homme qui fait beaucoup de concessions, je ne suis suffisamment révolutionnaire peut-être à leur avis.
Et alors répondons déjà à la question, êtes-vous social-démocrate ?
Non, je ne le suis pas.
Faites-vous des concessions ?
Oui, quelquefois je fais des concessions parce que je pense qu'il y a un socialisme du possible. Et je ne veux pas être un idéologue, je ne veux pas un homme, je veux être un homme politique, un homme qui soit capable de changer la réalité selon ses voeux et selon les grandes aspirations du peuple portugais.
Alors, l'autre question, êtes-vous assez révolutionnaire, Mário Soares ?
J'ai dit même le paradoxe, peut-être pour vous et dans votre société, j'ai défendu même que être révolutionnaire au Portugal, maintenant, c'est être modéré. Parce que la gauche a commis, l'extrême gauche surtout, a commis tellement de bêtises dans notre révolution pendant 2 années, elle a gâché tellement d'opportunités de s'imposer devant le peuple, qu'il faut maintenant être modéré pour sauvegarder les chances de la révolution et pour sauvegarder les chances du socialisme au Portugal. Alors, j'ai ce courage.
Mário Soares, vous êtes socialiste, vous êtes même secrétaire général du Parti socialiste portugais, mais au Portugal, êtes-vous un homme de gauche ?
Ah oui, maintenant même les communistes le disent. Ça, c'est très drôle parce qu'ils ont fait toute une campagne pendant des mois et des mois en me présentant comme l'homme qui ouvrait la porte à la droite, l'homme de la droite, le social-démocrate au service de l'Europe, cette chose terrible qui est l'Europe pour les communistes portugais. Et maintenant, devant la réalité des élections, ils savent bien que si le Parti socialiste ne tient, c'est la droite qui va au pouvoir. Alors moi, maintenant, pour eux, je suis la gauche. Et pour moi-même, je serai la gauche.
Mário Soares, voici de vous un portrait rapidement dessiné, parce que c'est l'homme qui nous intéresse et nous allons essayer de le rencontrer. Déjà, l'homme politique s'est dessiné. C'était un autre portrait. Mário Soares, 50 ans, avocat.
Je m'excuse, 51 maintenant.
Oui, bon, on peut dire 50 ans, c'est mieux, c'est le demi-siècle. 51 ans, époux d'une comédienne, 2 enfants, un garçon et une fille, des goûts de luxe. Vous me direz si je me trompe, hein.
Oui, des goûts de luxe, c'est un peu trop.
Des goûts de confort.
Ah oui, je ne suis pas un ascète, non.
L'obligation de gouverner, parce que vous avez une obligation très sûre et très nette. Une véritable envie d'écrire, et puisque vous êtes un homme politique, vous êtes passé à côté peut-être de votre véritable ambition qui est la littérature. Vous avez défendu des causes, puisque vous êtes avocat, je me demande si vous saurez plaider la vôtre. Vous êtes socialiste et bourgeois, et je me demande si vous n'êtes pas tout à fait en contradiction. Socialiste, bourgeois. C'est peut-être d'ailleurs l'avenir.
Vous savez...
Le socialisme sera sans doute une nouvelle bourgeoisie.
Bien, ça c'est un peu paradoxal, mais enfin, passons sur ce paradoxe, et pour aller au fond de ce problème de la contradiction. Je pense que chez tout le monde, il y a une contradiction. Il y a beaucoup de motivations qui sont différentes, qui sont contradictoires parmi tout le monde. Mais je pense que ce qui est intéressant pour un homme, pas forcément un homme politique, mais pour tout l'homme, c'est être capable d'assumer ses propres contradictions et être dans sa véritable peau. C'est cela que je cherche à être. Je ne veux pas me présenter avec une image, avec qui ne soit pas la mienne. Et vous savez, il y a des gens qui posent, qui composent sa figure, qui veulent paraître ce qu'ils ne sont pas véritablement. Et quand ça arrive, dans les moments de la vérité, c'est la fin, c'est la tragédie. Au contraire, les hommes qui ne composent pas sa figure et qui assument ses contradictions, ses défauts, ses qualités aussi, dans les moments difficiles, ils peuvent tenir. Or, moi, j'ai connu beaucoup de moments difficiles dans la prison, dans l'exil, dans la déportation, devant la torture. Et là, à ce moment-là, j'ai su que ce que j'étais véritablement. Et j'ai pu tenir à ce moment-là. Je pense que c'est important.
Vous tenez parce que justement, vous avez assumé tout ce que vous êtes. Vous avez assumé oui, la prison, la torture, mais vous avez assumé également votre classe.
C'est cela, ma classe. Je suis évidemment né dans une classe, la petite, la moyenne bourgeoisie portugaise. Bien sûr, je n'ai jamais prétendu me faire passer par un prolétaire, que je ne suis pas. J'ai eu certaines habitudes que je ne vois pas pourquoi je dois les perdre. Mais quand on est dans une position telle qu'on ne peut pas avoir ses besoins ou satisfaire à ses habitudes, on n'est pas forcément malheureux pour cela. Et on a la force de vaincre ces difficultés. Pendant ma vie, j'ai eu des moments difficiles du point de vue d'argent, du point de vue de confort, du point de vue d'autres choses, à la prison, à l'exil et tout cela. Et j'ai pu me tirer de ces situations. Mais je n'insiste pas quand je suis dans une autre condition. Voilà.
Enfin, votre volonté, Mario Suarez, c'est de paraître ce que vous êtes. Vous n'aimez pas, par exemple, il vous irrite même l'ouvriérisme.
C'est cela. Ça, je l'ai dit dans mon livre.
Ah oui, c'est très net. Hein. Vous ne voulez pas être de ces intellectuels qui ont honte de ne pas savoir parler de leurs mains.
C'est cela. Ça, oui. Ça, oui. Et de penser qu'ils ont fait, disant, bien, j'ai fait mon option de classe. Maintenant, je renie ma classe sociale. Je dois me présenter sans cravate. Je dois avoir des habitudes, mais à la fin, on continue à avoir sa voiture, sa petite voiture, sa maison de campagne et à boire ses whiskies à la fin de la journée.
Mais on doit vous en vouloir quand même de ne pas avoir renié tout cela, d'être
non,
l'homme qui s'est imposé.
Je n'ai pas rencontré. Il y a bien sûr des gens qui s'irritent un peu avec moi parce qu'ils n'aiment pas ma manière d'être, c'est normal. Il y a des gens qui font des critiques, qui pensent, qui jugent qu'un dirigeant socialiste doit avoir une vie, disons, d'une autre façon, mais ça ne m'a causé des grands problèmes.
Mais Mario Suarez, avez-vous pensé à des lendemains qui pourraient être tragiques, par exemple à un pays qui serait coupé en deux par la ligne du Tage, et peut-être, pourquoi pas, une autre guerre d'Espagne. Vous y avez pensé? Vous y pensez encore? Ou vous
non,
devez
maintenant, maintenant, heureusement, je ne pense plus. Mais je l'ai pensé beaucoup.
Vraiment, vous n'y pensez plus, maintenant?
Ah non.
À quelques mois des élections. À un mois même.
Ah non. Maintenant, la situation politique portugaise, du point de vue démocratique, est stable. Je vous dis par cela qu'il n'y a... Je ne pense pas qu'il y a des chances de coups d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ce que je pense, d'ailleurs, les prisons, petit à petit, sont en train de se vider. Les gens sortent des prisons. Par exemple, hier, M. Otelo Saravet Carvalho, que vous connaissez, que c'est ce général qui a été un des hommes qui a fait la révolution et qui après a été arrêté, a pu venir saluer M. Mitterrand à l'aéroport de Lisbonne, quand il est sorti du Portugal, j'ai parlé avec lui. Il y a encore quelques officiers en prison, mais je suis sûr qu'ils vont sortir. Et les choses entrent dans une certaine normalité au Portugal, je dirais dans une certaine normalité politique. Et par exemple, mon camarade espagnol, Felipe González, qui est le secrétaire du PSOE, m'a dit que dans une semaine, dans les événements de Vitoria en Espagne, a eu plus de morts dans une semaine que pendant tout le processus révolutionnaire, 2 ans au Portugal. Alors, je pense qu'il va y avoir peut-être des scènes regrettables de violence, mais cet affrontement énorme, cette lutte qui pourrait amener même à une guerre civile au Portugal, à une autre révolution, à une contre-révolution, à un putsch militaire, je pense que ce danger, pour le moment, est écarté de l'horizon national.
Mais s'il fallait la guerre, vous la feriez ?
Bien, je ne suis pas un guerrier, mais je me battrais sûrement. Ça, c'est sûr, je le ferais, j'assumais ma situation, je prenais parti et je serais dans un camp. Ça, c'est inévitable. Mais nous n'avons pas été ni Prague, ni le Chili. Et je pense que pour le bonheur de mon pays, nous ne serons ni une chose ni autre. Nous allons être tout simplement une démocratie politique dans le chemin des conquêtes sociales, dans le chemin du socialisme.
Vous avez quitté l'exil, vous êtes arrivé au Portugal, cela fait 2 ans, des choses vont se passer encore. Êtes-vous au bout de votre ambition personnelle ? Que voulez-vous être ? Président ?
Non.
Portugal ?
Non.
Premier ministre ?
Non.
Grand
non,
chef
non.
du Parti Socialiste ?
Bien.
Ou alors un homme tranquille qui va recommencer avec ses livres, avec sa famille, retrouver ses enfants ?
Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne peux pas prévoir, je ne prépare spécialement pour rien. Ce que je sais, c'est que je ne me vais pas ennuyer dans les années à venir. Je travaille trop maintenant, forcément. Nous sommes dans un combat politique. Mon but, pour le moment, c'est gagner les élections.
Vous allez les gagner ?
Je suis convaincu. Je vais avoir un bon score.
C'est le 25 avril.
C'est le 25 avril. Et si les sondages correspondent à la réalité, le Parti Socialiste va avoir plus 40%. Alors c'est un bon score. Nous serons, comme nous sommes déjà, le premier parti portugais. Et après les élections, si nous gagnons les élections, c'est normal que soit le Parti Socialiste à former un gouvernement. Et on veut le former seul, faire un gouvernement socialiste. Ça serait quelque chose de très important pour le pays, parce que c'est un tournage énorme. Et nous pourrons appliquer beaucoup de ce qui est inscrit dans notre programme et modifier le Portugal, mais en liaison étroite avec l'Europe. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, il va y avoir des élections présidentielles pour la présidence de la République au Portugal. Et j'ai dit depuis des mois que, à mon avis, c'était bien qu'il soit un militaire, le premier président de la République, justement pour donner une certaine stabilité aux institutions politiques portugaises, qui dépend encore beaucoup des forces armées.
On peut s'étonner quand même que vous souhaitiez un militaire à la tête du Portugal.
Bien. Vous savez, je souhaite un militaire, 6 militaires, peut arriver à avoir un certain consensus des forces armées, parce que nous avons vécu dans un pays qui a eu une dictature militaire, mais une dictature pendant 50 ans, qui est sortie de cette dictature pour une vie démocratique, avec beaucoup de difficultés, et maintenant avoir un militaire à la tête de l'État portugais, c'est une garantie d'une certaine stabilité. Et c'est cela qu'on cherche à donner aux gens, l'assurance qu'ils peuvent faire sa vie tranquillement, qu'il va avoir de la paix civile, tolérance, et que la démocratie peut jouer. Et c'est cela qui, c'est pour cela que je dis que c'est peut-être conseillable un président militaire. Mais s'il n'y a pas ce consensus dans l'armée, alors on devait forcément trouver un président civil, ce qui n'était pas exclu.
Mario Suarez, là, vous faites encore une concession parce que vous n'aimez pas tellement les militaires. C'est vrai, c'est...
Bien,
c'est une condition politique.
Je dis dans mon livre, justement, je n'ai rien contre les militaires. Mais moi, je ne suis pas un militaire, je suis un civil. Je l'ai été toujours, je n'ai pas fait mon service militaire même. Alors, pour moi, c'est une famille un peu étrange, les militaires. Et je ne peux pas dire que je n'aime pas. Je considère qu'il y a des militaires qui sont des hommes extraordinaires. Et dans mon pays aussi, il y a eu... Et il arrive quelquefois, il y a des militaires qui sont des grands politiciens, comme le général de Gaulle, par exemple, en France. Mais pour moi, je ne pense pas que les militaires sont forcément les mieux placés pour gouverner un pays, ce qui est différent.
Vous pourriez être le président ?
Non, je n'envisage pas cette hypothèse. Je pense que le président doit être un homme au-dessus des partis, un homme avec une résonance nationale, et moi je suis forcément, parce que je suis le secrétaire général du plus grand parti, je suis un homme politique, je suis aimé pour mes amis, mes sympathisants et mes partisans, mais je suis détesté pour les gens des autres partis. Alors forcément, ce n'est pas la meilleure chose pour un premier président d'un gouvernement constitutionnel, avoir à la tête un homme polémique comme moi.
Mario Suarez, vous êtes l'ami de François Mitterrand, mais oublions un peu l'amitié. Pour vous, quel est l'homme d'État ? C'est Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand ?
Pour moi, les deux hommes sont des hommes d'État. Giscard d'Estaing, évidemment, c'est un homme avec des grands mérites, tout le monde le sait. Monsieur François Mitterrand aussi, c'est un grand homme, pas seulement d'État, mais c'est un homme qui a renouvelé tout le socialisme français et même le socialisme européen. C'est une grande personnalité et moi, je suis proche, je suis frère, si vous permettez cette expression, de François Mitterrand. Alors, pour moi, monsieur Giscard d'Estaing, c'est un homme avec beaucoup de mérite, mais c'est un homme qui se place dans une autre hémisphère politique que le mien. Moi, je suis frère de Mitterrand et, bien sûr, j'admire Mitterrand.
Mais vous seriez content d'être reçu à l'Élysée par le président Giscard. Vous l'avez d'ailleurs été.
Je l'ai été déjà deux ou trois fois. J'ai eu des bonnes conversations avec lui. C'est un homme distingué et d'ailleurs c'est un homme qui aime le Portugal et je suis sensible à cette chose.
À votre avis, Mario Suarez, et je ne voudrais pas vous gêner, François Mitterrand, il serait content de se rendre à l'Élysée ? Ce sont plutôt les événements qui le forcent à ne pas y aller.
Ah, ça je ne me permets pas de me prononcer sur des questions de la politique intérieure française. Je pense que s'il ne l'a pas fait...
Il a dû vous en parler.
Vous savez que les hommes politiques se parlent beaucoup. Et évidemment, on a parlé beaucoup de choses, mais pas de celle-ci. Je ne l'ai jamais demandé à lui pourquoi il n'allait pas à l'Élysée. C'est parce qu'à mon avis, il y a des raisons évidentes pour cela. Bien sûr qu'une visite de M. François Mitterrand à l'Élysée a un significat politique, une signification politique qu'il doit peser. Avant de le faire, ce n'était pas un problème personnel, c'est un problème politique que concerne à toute la gauche française.
Mais faisons un peu de géographie imaginaire. Vous êtes, vous, Mario Suarez, patron du Parti Socialiste Français, plutôt que d'être
patron. Je n'aime pas l'expression patron.
Enfin, patron, oui, c'est vrai, vous n'aimez pas les patrons, c'est vrai. Enfin, secrétaire général du Parti Socialiste. Irez-vous à l'Élysée, vous, rencontrer le président de la République ?
Mais presque sûrement, je ferai ce que monsieur Mitterrand a fait.
Parfait. Bonne réponse, Mario Suarez. La tendresse entre guillemets, que vous offrez à Cugnal, vous pouvez également l'offrir à Georges Marchais ?
Bien, pour moi, monsieur Marchais n'a pas été sympathique pour moi. On ne se connaît pas personnellement. Mais toujours qu'il a parlé de moi, il l'a fait d'une façon un peu, enfin, que je ne peux pas dire
pas élégante.
Soit, soit aimable. Mmh. Mais moi, je considère M. Marchais comme un homme, comme un communiste d'une étoffe complètement différente de Cugnal. Pour moi, Cugnal, c'est un communiste des années 30.
Communiste mystique.
Un communiste dur, un bolchevique, à la façon qu'on était bolchevique dans les années 30. Et monsieur, au 40 même. Et monsieur Marchais, c'est un communiste européen avec un visage humain, pour reprendre l'expression, complètement différent. Et les prises de position qu'il a pris depuis quelques mois ou quelques semaines en France, je les trouve très courageuses et très avancées. Et je les approuve. Bien sûr qu'il n'a pas aucun intérêt que je l'approuve ou n'approuve pas, mais pour moi, je tiens à vous dire que je considère que les pas qu'il a donnés sont des pas courageux et très importants pour l'avenir du communisme dans l'Occident, de l'Europe, et aussi pour l'avenir des rapports entre les partis communistes et les partis socialistes.
Vous pensez que le monde sera socialiste dans quelques années ? Socialiste à visage humain, hein ?
Bien, je pense que l'Europe va devenir socialiste dans quelques années, d'un socialisme complètement différent que ce qu'on appelle socialisme dans les pays de l'Est. Mais je pense que notre contribution, c'est justement de rendre compatible la liberté politique et les droits de la personne humaine avec les conquêtes sociaux du socialisme et l'égalité économique, plus ou moins.
Mario Soares...
En laissant une partie à l'initiative privée, que c'est très important.
À l'initiative privée.
Oui, à l'initiative privée, parce que je pense que ça, un certain secteur privé dans les sociétés, même socialistes, on tombe dans l'étatisme ou dans le capitalisme d'État, ce qui est une autre façon de dire la même chose.
Mario Soares, quelle sorte d'homme êtes-vous ? Un avocat ? Un ancien exilé ? Un ancien proscrit ? Un homme politique et ambitieux ? Ou au contraire, un homme qui voudrait bien un jour et vite se réfugier dans le silence et l'anonymat ? Parce qu'il y a quand même quelque chose de paradoxal. Vous êtes devenu plus célèbre que votre femme qui, elle, devait l'être parce qu'elle est comédienne. Vous lui avez volé sa notoriété.
Ah non. Elle a son nom comme actrice. Elle continue à l'avoir et elle fait comme elle peut sa carrière. Elle a été un peu empêchée de faire sa carrière.
Peut continuer en ce moment à faire sa carrière ?
Ah oui, bien sûr. Maintenant, elle recommence. Elle vient de sortir un film au Portugal, qui d'ailleurs est un bon film et qui a eu un succès. Peut-être elle va faire un autre, mais elle ne veut pas jouer maintenant parce que elle a aussi commencé à faire de la politique. Elle va se présenter aux élections et elle va être élue candidate. Elle va être élue députée parce que elle a sa place dans la liste. C'est une place indiscutable. Ça veut dire qu'elle va être députée pour Saint-Arène parce qu'elle est la deuxième de la liste. Alors, c'est évidemment, elle va être évidemment élue. Mais aussi, elle est membre de la direction du parti. Elle appartient à la commission nationale du parti.
Je vous demandais tout à l'heure si vous étiez un proscrit, un exilé ou un homme qui voulait revenir à sa tranquillité.
Le proscrit, je ne veux pas le retourner. Je ne veux pas retourner à être un homme, un exilé. Je suis maintenant un homme politique. Et je vous dis que peut-être un jour je laisserai d'être parce que on ne peut pas être toujours dans ce métier de secrétaire général d'un parti politique parce que on ne peut pas tenir le coup pendant longtemps parce que c'est une vie de fou, on n'a pas de temps pour rien et on travaille trop. Et un jour, je dois retourner à écrire. Et peut-être ma vocation, c'est d'écrire. Et je pense qu'un jour, je vais faire. Quand ça va être fait, ça, je ne sais pas. Et si je vais passer encore un stage au gouvernement, ça aussi, je ne sais pas. Peut-être oui.
Vous y pensez déjà ?
Ah, bien sûr, forcément, si nous sommes à 2 mois d'une élection et on cherche à gagner ces élections, bien sûr, ce n'est pas pour après dire, monsieur, adieu, je pars chez moi.
Vous êtes un peu boulimique, parce que vous pensez à tout. Hein? Vous voulez un peu tout, quoi. Vous voulez être à la tête du parti politique, vous voulez être ministre. Et vous voulez écrire, c'est-à-dire, vous voulez avoir le confort et la sécurité.
Non, je m'excuse, mais je ne veux pas, ce n'est pas une volonté d'être, c'est une... C'est
manière de servir.
Non, bah, ça c'était un peu prétentieux de le dire, mais c'est une exigence d'une logique, oui. D'une situation où on est.
Mais dans votre entretien avec Dominique Pouchin, il y a une phrase qui m'a quand même un peu aiguisé la curiosité. Vous payez toujours votre cotisation d'avocat, comme s'il fallait y retourner très vite au barreau. Ou alors peut-être est-ce nécessaire de la payer, je ne sais pas.
Non, ce n'est pas nécessaire du tout, je pourrais retirer, mais vous savez, il y a 2-3 procès que j'aimerais plaider. Ça, je peux vous dire en toute franchise, si ça, je ne l'ai pas dit à Dominique Pouchin. Il y a un de ces procès, c'est le procès Delgado. Vous savez que j'ai été l'avocat de la famille pendant des années. Le procès va être jugé au Portugal. Je peux vous dire, quand il va entrer en être un jugement, au moment du jugement, si je ne serai pas membre du gouvernement, même dans ma qualité politique...
Vous pouvez, comme secrétaire général du Parti Socialiste Portugais, vous pouvez plaider.
Oui. Rien n'empêche, si je suis avocat, rien n'empêche. Bien sûr, si je suis au gouvernement, je ne peux pas. Mais maintenant, je ne suis pas. Et si le procès se présente, j'aimerais le plaider. Il y a 2 ou 3 autres procès politiques, j'aimerais intervenir encore. Et je n'ai pas complètement désisté de ma position d'avocat, non ? Ça, non. J'aimais plaider.
Enfin, vous êtes célèbre, Mario Suarez. L'exilé est devenu vedette. Alors êtes-vous indifférent à ce succès ?
Bien, pas vedette. Pas vedette. Je suis un homme politique comme un autre.
Les hommes politiques se défendent toujours d'être des vedettes. Ils le sont plus que les vedettes elles-mêmes, maintenant.
Non, il y a des hommes politiques qui, pour une raison ou pour une autre, prennent une certaine notoriété. C'est le cas, c'est ce qui nous est arrivé à nous à cause de la Révolution, non à cause de moi. Ce sont les événements qui ont eu lieu au Portugal qui ont donné une certaine notoriété à un petit pays, à un homme politique d'un parti, si ce n'est pas cela... Qui connaît le secrétaire général d'un parti socialiste de la Turquie ou d'un autre pays quelconque. Alors, forcément, le secrétaire général du Parti socialiste portugais ne devait pas être connu, au moins à l'étranger. Mais il y a eu une expérience révolutionnaire au Portugal, il y a eu une preuve de force entre les socialistes et les communistes, une expérience révolutionnaire nouvelle, il s'est intéressé à la France et d'autres pays de l'Europe. C'est cela qui a donné. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans les premières pages des journaux. La situation devient tranquille au Portugal. On entre dans la routine politique. Ça va passer vite. Ce qui est normal et naturel, et je trouve cela très naturel.
J'ai l'impression que vous aimez Mario Suarez, parce qu'il y a une réponse à une question, vous voulez ressembler à vous-même.
Oui. Oui, bien sûr, je ne veux pas faire la copie des modèles étranges, c'est normal.
Vous êtes l'image parfaite de ce que vous souhaitiez.
Non, je ne suis pas l'image parfaite, j'ai beaucoup de défauts, bien sûr. Comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Oui, mais bien sûr, on a, et moi, j'ai des défauts, comme tout le monde. Mais je ne me considère pas un homme spécial, je vous dis franchement, et tout à fait franchement, je me considère un homme commun. Un homme commun qui a eu une vie avec des accidents et qui a été le produit de cette vie. Et qui a voulu être sincère vis-à-vis soi-même, vis-à-vis son pays, qui a lutté pour des idées... qui ne sont pas mes intérêts personnels. Je n'ai jamais lutté pour mes intérêts personnels. Et ça, c'est la vérité. J'ai lutté pour ce que je considère le juste. Et pendant, vous savez, je pourrais avoir fait une carrière politique très rapide, mais j'ai passé 32 ans dans l'opposition et dans l'anonymat.
Et dans la prison.
Et dans la prison. Alors, je pourrais passer tout le reste de ma vie parce que j'ai connu beaucoup d'hommes au Portugal. Il y a des hommes au Portugal. Il y a eu des hommes qui sont morts, qui ont passé des années dans la situation où j'ai été, ont passé 40 ans dans la clandestinité, dans l'exil. Ils sont morts, ils n'ont pas été connus. Ils étaient beaucoup mieux que moi. Et je me rappelle d'une trentaine des hommes de la génération plus avancée que la mienne qui ont été des hommes extraordinaires comme lutteurs. Ils pourraient être des grandes personnalités politiques au pays qui ont été sacrifiés dans cette lutte. J'étais tout à fait disposé à être comme eux s'il n'y a eu le 25 avril.
Vous vous méfiez un peu des intellectuels ?
Non, moi-même je me considère un modeste intellectuel, mais un intellectuel, pas du tout. Non, au contraire. Je considère que l'apport des intellectuels à la politique, c'est essentiel.
Mais vous vivez dangereusement. Vous êtes quand même à la veille d'un complot, je ne voudrais pas vous faire peur, mais enfin, tout homme politique, surtout lorsqu'il est à votre place, a toutes les raisons de s'inquiéter.
Non, maintenant non.
Non ?
Je vous dis franchement, je me promène dans les rues de Lisbonne avec toute la tranquillité, sans garde-corps, sans personne, tout le monde le sait au Portugal. Je me promène dans tous les milieux, même les milieux qui me sont désagréables. J'ai, par exemple, en Amérique, j'ai été dans un meeting qui était complètement rempli par des gens qui étaient partisans farouches de Spinola, très contre la révolution portugaise, des gens qui pensaient que j'ai vendu les colonies, etc., etc., et qui m'ont presque insulté dans la salle, etc. J'ai parlé avec eux sans aucune difficulté. Et véritablement, je ne pense pas qu'il y a des grands dangers dans tout cela. Le portugais, ce n'est pas un homme violent.
Mais vous préféreriez une mort brutale à une maladie un peu longue.
Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette condition.
Parce qu'il y a cette phrase, la mort de Kennedy ou de Luther King est une grâce de Dieu, comme si vous vouliez mourir d'un coup.
Non, parce que...
Sans le savoir, voyez, sans l'avoir prévu.
Vous voyez, ça, c'est une question qui a posé Dominique Pouchin d'une façon un peu subite. Et je l'ai dit ce que je pensais, avec franchise, c'est mieux. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup mieux mourir avec un tir qu'être pendant 4 années à l'hôpital dans une décadence physique inéluctable? C'est la pire des choses.
Vous voulez vous en aller en pleine santé?
Oui, je préférais.
Nous parlions tout à l'heure de Spinola. Vous seriez d'accord pour lui ouvrir les portes du Portugal?
Il va revenir. Sa femme est rentrée au Portugal, c'est un bon signe. Il va revenir, on va normaliser la situation politique portugaise, on va revenir, il va revenir. Je pense que faire de Spinola un mythe et le pousser dans une action contre-révolutionnaire, c'était un acte de folie.
Quelles sont pour vous les choses essentielles de la vie, Mário Soares? Vous avez passé quand même la plus grande partie de votre existence à défendre votre pays. Vous avez 51 ans, j'ai dit 50 ans tout à l'heure, mais vous avez ajouté un an, 51 ans. Il y a quand même des actes essentiels qu'il faut faire, une ligne qu'il faut suivre.
Ah oui,
et un cœur qu'il faut offrir.
Oui, à mon avis, il faut avoir une vie riche d'expérience. Il faut éprouver les choses. Il faut vivre, quoi. Il faut vivre. Dans tous les aspects, bien sûr, j'ai dit dans mon livre aussi, la politique c'est très important et pour moi a été une des raisons d'être, mais pas la seule. Bien sûr que je suis un homme, alors évidemment l'amour a compté dans la vie et la famille, les amis, les amitiés... Les grandes idées, les aventures culturelles et de l'esprit, ça, à mon avis, sont très importants. J'appartiens à une lignée d'hommes qui ont pensé mon pays, culturellement mon pays, d'une certaine façon. Alors...
Les rencontres aussi.
Les rencontres aussi, pas seulement avec les Portugais, mais avec les gens du monde que j'ai eu la grande chance de rencontrer. Et c'est très important. Mais je peux vous dire franchement que maintenant je connais ce qu'on appelle les hommes célèbres du monde, et les hommes, pas seulement les politiques, mais d'autres hommes que j'ai rencontrés ici et là, les grands intellectuels, les grands écrivains. Nous appartenons à un petit pays, mais il y a les hommes que j'ai connus dans ma jeunesse, les hommes qui ont été mes maîtres à penser, quelques intellectuels portugais, ne sont pas d'une dimension inférieure aux autres. Ce que je pense que les petits pays, quelquefois, ont des grands hommes.
Ils peuvent donner de grandes leçons.
Et nous avons eu des hommes qui ont été capables de supporter cette dictature de 40 ans avec dignité, des grands intellectuels. Je parle un peu d'eux aussi. Et ces hommes-là sont les meilleurs que j'ai connus.
Vous faites confiance aux hommes ?
Ah oui, si je ne faisais pas confiance aux hommes, je ne ferais pas de la politique. Alors ça, c'était fini. Si je n'avais pas cette croyance, si vous voulez, dans l'homme, dans sa condition, dans sa capacité de s'améliorer, dans sa progression, alors la politique serait un jeu d'intrigue qui n'avait aucun sens pour moi.
On peut rester parfaitement honnête en faisant de la politique.
Ah, je le pense, si on le doit.
C'est difficile.
Quelquefois, c'est difficile. Je ne peux pas me présenter à vous comme un ange, que je ne suis pas. Et quelquefois, il y a des bas coups ou des coups bas qui ont fait en politique. Quelques-uns ont fait à nous, et nous faisons aux autres. Ça fait partie de la politique. Ça est évident, mais on doit être fidèle à des grands principes et à des grandes motivations. Et ça revient toujours aux hommes, à la qualité humaine, à cette confiance dans la qualité humaine. Je ne suis pas déçu de l'espèce humaine. Je ne suis pas sceptique sur le caractère de l'homme. Au contraire, je suis confiant.
Votre femme vous a-t-elle parfois reproché de vous être engagé à ce point dans le mouvement politique ?
Non, elle se plaît parce que...
Elle se plaît maintenant ?
Oui, elle se plaît maintenant.
Parce que tout va mieux.
Plus. Elle se plaît maintenant plus qu'avant. Parce que maintenant, véritablement, elle a de moins en moins de temps d'être avec moi. Et je suis pris tout le temps, même si je ne veux pas. Et si je combine faire un week-end, de garder deux jours, après il arrive une crise, une situation, quelque chose qui arrive toujours et je ne peux pas. Alors maintenant elle se plaint.
Quel âge ont vos enfants ?
Mon fils a 26 ans et ma fille a 25.
Vos enfants partagent vos idées ?
Ah oui, complètement. Ça c'est une grande chance. Mon fils, tous les deux sont au Parti Socialiste. Mon fils, c'est bien sûr plus à gauche que moi.
Plus révolutionnaire que vous.
Plus révolutionnaire que moi. Un peu plus
moins bourgeois.
Complètement. Un peu plus de goût pour les armes à feu que moi, parce qu'il aime un peu ce type de choses, il croit à ce type de choses. Même dans la clandestinité, quand nous étions dans la clandestinité, il était toujours avec cette préoccupation. Maintenant, il est éditeur. Et il travaille dans les livres, dans une maison d'édition qu'il a formée. Ma fille, qui est étudiante, elle est ma grande compagne dans la campagne électorale. C'est mon chauffeur. C'est avec elle que je sors toujours au meeting.
À un certain moment de votre vie, puisque votre femme est comédienne, vous avez pensé que vous pourriez faire un métier d'acteur ?
Non, non,
non. Vous êtes élégant, vous avez un physique.
Non, jamais de la vie. Je n'ai aucune penchant pour ce type de choses, non. Ce que je pensais faire, c'est une carrière d'avocat, et ça me suffisait.
Ce n'est pas fini, vous avez encore
tout
l'avenir.
Ce n'est pas fini, oui, mais enfin...
Entre avocat et ministre...
Il y a une grande différence.
Vous choisissez ministre.
Ah, pas ministre, mais homme politique, oui, j'ai choisi, malheureusement.
Mais un jour, Mario Suarez, vous pourrez vous entendre, mais vous entendre véritablement avec le Parti communiste. Peut-il y avoir un rapprochement avec M. Cugnal?
Bien, avec M. Cugnal, vous savez, c'est difficile. Parce qu'il a 72 ans.
C'est trop vieux pour la politique?
Ce n'est pas qu'il soit trop vieux, mais c'est trop vieux pour changer. C'est trop vieux pour changer. Et bien sûr qu'il s'adapte. Maintenant, il parle un langage beaucoup plus réaliste qu'il parlait avant. Il ne dit plus, comme il a dit à Oriana Fallaci, qu'au Portugal, ce serait ou le communisme, qu'il appelait la démocratie communiste, ou le fascisme. Et maintenant, il pense que la démocratie, c'est un fait, qu'il doit s'adapter aux règles démocratiques. Mais dans le fond de son cœur et de son esprit, il continue à être le même homme, l'homme qui a voulu le pouvoir absolu seul pour des méthodes antidémocratiques. Un homme qui a trempé dans une conspiration comme il l'a fait, c'est très difficile après d'être cru comme, et admis comme un démocrate.
La lutte sera chaude le 25 avril.
Oui, nous sommes maintenant en pleine campagne électorale. Nous avons une grande bagarre avec la droite. Parce que la droite au Portugal a le travesti de la social-démocratie. Alors, il y a un parti qui a une pratique politique de droite, c'est le parti de M. Sá Carneiro, qui est populaire démocratique, qui n'est ni populaire ni démocratique, et qui maintenant, il s'est travesti d'être social-démocrate. Il vient d'avoir un grand camouflé, parce que toute la social-démocratie européenne a été au Portugal. Il ne l'a pas reconnue comme telle. Alors ça, bien sûr, il a ressenti beaucoup ce camouflet et il est très aigri, très amer et très, très dur. Il a dit des propos, il a fait des actions assez regrettables. Et alors, la campagne électorale a commencé à voir cette pré-campagne électorale où nous sommes, parce qu'officiellement, la campagne va s'ouvrir seulement le 3 avril, a pris une tournure assez dure et assez brutale. Je le regrette.
Vous affichez clairement les cartes, Mário Soares. Vous dites très franchement que vous ne pourrez jamais gouverner avec le Parti communiste. Vous savez qu'en France, il n'en est pas de même. Il y a un programme commun. Donc, vous êtes une terre d'expérience. Et les partis socialistes, dans le monde entier, vont devoir prendre leur distance par rapport au Parti communiste, s'ils veulent suivre ce que vous faites.
Non.
Très sincèrement, les socialistes peuvent-ils travailler avec les communistes dans tous les autres partis du monde?
Ça dépend des conditions.
Dans tous les autres pays du monde.
Ça dépend des conditions de chaque pays et des conditions des partis communistes et des partis socialistes respectifs. Alors, on n'a pas une recette universelle. On doit faire attention aux conditions de chaque pays. En France, c'est toute évidence que oui, le programme commun a très bien marché, a donné des grands succès au Parti socialiste, a fait progresser toute la gauche. Ils sont maintenant dans une situation assez confortable. Et véritablement, cette stratégie de l'union de la gauche a porté un grand succès.
Vous croyez, vous, à une union de la gauche?
Je crois, en France.
Pas au Portugal?
Bien, malheureusement, les conditions au Portugal sont différentes. Mais en Italie, il y a toute une autre conception. Vous voyez que le Parti communiste italien, c'est un grand parti. C'est un parti démocratique, un parti très ouvert. Mais il a une stratégie qui s'appelle le compromis historique, qui est tout à fait différente de cette alternative de gauche qui existe en France. Et il y a dans d'autres pays où le Parti communiste ne compte pas. C'est le cas, par exemple, d'Angleterre, de la Suède, d'autres pays où les partis socialistes, ou travaillistes, ou social-démocrates, comme vous voulez, ont la presque totalité de la classe ouvrière derrière eux. Alors, le parti communiste, c'est une quantité négligeable. Au Portugal, le parti communiste a 12% des voix, tandis que nous avons 38% pour les dernières élections. Cette distance va se confirmer, ou même s'élargir encore, à nos bénéfices dans les prochaines élections est de toute évidence que le Parti socialiste, c'est un grand parti de la classe ouvrière, un grand parti populaire, tandis que le Parti communiste, c'est un parti sectaire petit au Portugal.
Vous n'avez pas l'impression...
Il y a un rapport de force complètement différent des autres pays de l'Europe du Sud.
Vous n'avez pas l'impression, Mario Soares, que vous êtes l'homme qui fait le plus de mal au Parti communiste, parce que justement, vous l'attaquez dans un pays où il aurait pu avoir sa place.
Vous savez, l'homme qui a fait le plus de mal au Parti communiste s'appelle Álvaro Cunhal, pas moi. Et l'homme qui a fait le plus de bien au Parti socialiste portugais a été encore Álvaro Cunhal, pas moi. Je vous avoue que...
Vous devriez lui dresser une statue.
Ah oui, un jour on le fera. S'il a été un Berlinguer ou même un marché, nous n'étions pas dans ce stage d'un grand Parti socialiste avec l'importance et l'implantation dans les masses et dans les syndicats que nous avons. Ça, c'est sûr, et c'est pour cela que je vous dis... Notre stratégie, ce n'est pas une stratégie d'union avec le centre. Nous n'allons pas faire une politique centriste au Portugal. C'est pour cela que je dis où le Parti socialiste va gouverner seul ou il va retourner à l'opposition. Parce que je ne veux pas le redonner au Parti communiste. En étant dans une association, dans une coalition avec le centre ou avec la droite, le centre-droite, le redonner les chances de reprendre l'influence sur la classe ouvrière et sur les masses populaires portugaises. Alors, le Parti socialiste reviendra à l'opposition pour libérer le mouvement des aspirations populaires des classes travailleuses portugaises.
Enfin, vous écoutant et situant même votre action au Portugal, on comprend, nous, que jamais le Parti socialiste et le Parti communiste, quelque part au monde, pourront s'entendre.
Non, ce n'est pas mal, la conclusion. Ça, c'est une fausse conclusion, je m'excuse.
Non, je ne vous la donne pas, cette conclusion.
Non.
Je pose un point d'interrogation.
Non, je m'excuse, mais non. Au fond des choses, notre stratégie, ma stratégie, ce n'est pas tellement différent de la stratégie de M. Mitterrand. Non, ce n'est pas tellement différent. Nous voulons avoir des partis de gauche, des grands partis de gauche, très implanté dans la réalité sociologique de chaque pays et leaderant les aspirations des masses populaires et des travailleurs dans un pays et dans les autres. Mais il y a des données sociologiques différentes au Portugal et en France. Dans mon pays, maintenant, le Parti communiste est un petit parti. Et je veux qu'il reste un petit parti. Ça, c'est vrai. Et je veux que soit le Parti socialiste à canaliser, à véhiculer ce profond sentiment et ce profond souhait de transformation sociale qui existe dans les masses populaires portugaises.
Mario Soares, secrétaire général du Parti socialiste portugais, vous êtes là en face de moi, à 40 centimètres, nous sommes les yeux dans les yeux, et j'ai l'impression, parce que je suis avec vous depuis une heure, que vous ne pourriez pas tricher.
Ah oui, je suis un homme franc. Tout le monde le dit. Pour un politique, peut-être trop.
Trop, vous pensez? Je crois que ça passe.
Peut-être trop.
Non, mais je crois que lorsqu'on est franc comme vous l'êtes, les choses passent mieux.
Peut-être.
Et on finit par se faire comprendre. Et peut-être même par se faire aimer. Alors, vous avez besoin, vous, d'être aimé.
Oui, j'ai besoin. Et je peux vous dire une chose en toute confidence, parce que nous sommes des yeux dans les yeux, comme vous le dites. J'ai été aimé pendant ma vie. Peut-être c'est cela qui me donne une certaine tranquillité. J'ai été aimé par mes parents, j'ai été aimé par ma femme, je suis aimé par mes enfants, j'ai des bons amis. Alors, je me sens en confiance dans la vie. Je ne suis un homme ni aigri, ni ressenti. Ça, c'est important.
Vous le savez, Maurice Torres affirmait qu'il fallait savoir finir une grève. Alors vous, Mario Soares, saurez-vous finir une révolution?
Bien, vous savez, finir une révolution a un sens contre-révolutionnaire. Et je ne suis pas un contre-révolutionnaire, je suis un révolutionnaire, à ma manière. Mais la révolution doit se canaliser dans des voies qui vont directement aux besoins et aux rencontres des besoins et des aspirations populaires. Nous sommes en train de le faire. Notre révolution est en train de s'enraciner dans la vie quotidienne de tous les Portugais, ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'augmenter le niveau de vie des Portugais, parce que pour nous, le socialisme ou la révolution ne sont pas des mythes. Pour nous, le socialisme et la révolution se mesurent dans les acquis qu'on peut avoir, les masses populaires et les forces travailleurs, avec ces révolutions et ce socialisme. Ça veut dire, si le socialisme et la révolution contribuent pour améliorer la vie quotidienne du peuple portugais, elle va dans le bon sens, c'est dans le sens qu'elle va maintenant.
Je ne vous le souhaite pas, mais peut-être reprendrez-vous un jour, Mário Soares, le chemin de l'exil, pour enfin être complètement libre.
Non, je ne pense pas. Mais le chemin d'une vie privée au Portugal, retourner à l'avocatie, à l'enseignement, à la vie de journaliste ou d'écrivain, ça, peut-être.
Et d'avocat,
pourquoi pas.
Vous pensez que vous plaidez bien votre cause ?
Ma cause ? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire.
Je crois. Merci, Mário Soares.